Vous êtes sur RTL.
Il est 22h.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir, votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, la première journée de la prestigieuse Ligue des Champions. Match nul il y a un instant entre Lyon et le Zénith Saint-Pétersbourg, un partout et match en cours. On va reprendre dans quelques instants, c'est la mi-temps pour Lille à Amsterdam face à l'Ajax. Bonsoir Bedeugam.
Bonsoir Christophe, et ça se passe pas trop bien pour les Lillois qui sont menés seulement, je dirais, 1-0 par l'Ajax. Le but marqué la 18e minute par Quincy Promes, l'international néerlandais, de la tête. Meignan n'y était absolument pour rien sur l'affaire. Mais comment ne pas regretter l'énorme occasion à la toute dernière minute de la première mi-temps pour Ikoné qui a buté devant Onana, le gardien de but de l'équipe néerlandaise. 1-0 donc pour l'Ajax.
Vous serez notre fil rouge ce soir, évidemment, sur RTL, Hervé Veugue pour ce match de Ligue des Champions avant demain, le match du PSG face au Real Madrid. Un vaste plan d'action du gouvernement pour éradiquer le marché de la drogue en pleine progression ces dernières années. Pas moins de 4 ministres étaient sur place aujourd'hui à Marseille pour présenter l'OFAP, un plan anti-stup de grande envergure avec en exergue le rapprochement de tous les services de répression unis sous une même bannière. Vraie mesure, communication de circonstances, on va détailler ce plan dans un instant avec notre invité ce soir, l'expert en criminologie Alain Bauer. Et puis soir d'élection d'Israël, de candidats au coup d'à-coup ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui risque avec ses élections législatives de voir son pouvoir légèrement diminuer dans les heures qui viennent. Les premiers résultats sont en train de tomber. On va aller dans un instant évidemment en Israël retrouver notre envoyé spécial. 22h20, n'oubliez pas, votre grand magazine de l'écho et puis la météo pour demain avec Louis Baudin. Ce sera toujours grand soleil et comme tous les mardis soirs, sortez ciné 22h25 avec Stéphane Boutsock. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Oui, élection très attendue hein, ce soir en Israël où le Premier ministre Benjamin Netanyahou passe un test finalement grandeur nature, une sorte de référendum au pouvoir hein, depuis 10 ans. Eh bien, ce soir ou cette nuit, on en saura un peu plus, mais les élections législatives pourraient fortement contrarier en tout cas son hégémonie. Avec nous Stéphane Amar, bonsoir à vous. Les premiers résultats en tout cas le donnent visiblement au coup d'à-coup. C'est très serré avec son grand rival du moment, Benny Gantz, Stéphane.
La télévision israélienne affine de minute en minute les résultats, mais à cette heure, Benjamin Netanyahou semble bel et bien légèrement devancé par son rival centriste, Benny Gantz. Pour la première fois en 10 ans, le Premier ministre israélien se retrouve dans une position très délicate et serait dans l'impossibilité de réunir les 61 députés nécessaires pour former une coalition. Ce soir, les commentateurs évoquent déjà les alternatives possibles en cas de défaite de Netanyahou, un gouvernement de gauche ou bien l'Union nationale. Plusieurs inconnus demeurent, l'attitude du parti arabe qui réalise un bon score et surtout celle d'Avigdor Lieberman qui confirme ce soir sa position de faiseur de roi. Ce russophone très laïque souhaite ouvertement la chute de son ancien mentor Netanyahou et va tenter de manœuvrer pour obtenir le meilleur poste possible au sein du prochain gouvernement.
Stéphane Amar, merci à vous en direct d'Israël ce soir. Toujours à l'étranger après l'attaque de missiles contre l'Arabie Saoudite, les États-Unis accusent l'Iran d'avoir servi de rampe de lancement aux auteurs de ces sabotages, mais sans pour autant lancer une éventuelle riposte pour l'instant. Le cours du pétrole, lui, après une très nette flambée hier, n'a perdu ce mardi que 5% de sa valeur sur les marchés.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Un nouveau plan anti-drogue présenté aujourd'hui en France en grande pompe à Marseille, dans une ville, on le sait, gangrénée par les règlements de compte sur fond de trafic de drogue. L'État a donc décidé de frapper fort, de s'attaquer encore plus fort même à ce fléau avec un plan anti-stup baptisé l'OFAP, avec la réunion de grands groupes de police, évidemment des forces de l'ordre, l'Office anti-stupéfiant. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a détaillé les grandes lignes de ce plan face à notre envoyé spécial Olivier Bois.
L'OFAST sera également le lieu du travail en commun. Police, gendarmerie, douane et magistrats seront impliqués dans sa gouvernance. Notre objectif est simple, mutualiser nos forces. Nous voulons frapper fort, nous voulons frapper ensemble et envoyer un message clair aux trafiquants, la France ne sera pas leur terrain de jeu.
Un plan anti-drogue donc de grande envergure annoncé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avec à ses côtés 3 autres ministres. Avec nous ce soir pour revenir sur ce plan baptisé, on l'a dit, OFAST, c'est Alain Bauer qui est avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Professeur de criminologie, merci de prendre du temps pour nous pour savoir si ce sera efficace finalement cet office anti-stupéfiant, cet OFAST qui nous rappelle quand même le GoFast aussi, hein, le trafic de drogue hein, avec les voitures.
Oui, je pense qu'il y a un clin d'œil et que la communication du ministère n'a pas pu y résister. En fait, le vrai problème de la lutte contre les stupéfiants, c'est ce qu'on veut, car nous vivons depuis de nombreuses années dans une grande hypocrisie. Nous avons un texte très ancien, qui a plus de 40 ans, qui considère les purs consommateurs, les consommateurs dealers, les grands trafiquants à peu près de la même manière. Et nous faisons face à un problème assez particulier, c'est que toute politique de prohibition jusqu'à présent se traduit mécaniquement par une augmentation des prix, une baisse de la qualité et une baisse de la production disponible. Sauf en matière de stup. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons plus de produits, plus purs et moins chers qu'avant.
D'accord.
Ce qui amène à se poser des problèmes assez simples, c'est quand une politique de prohibition ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ? Une partie de la classe politique, sans le dire, est pour la dépénalisation ou la libéralisation ou la contraventionnalisation, et d'autres sont pour une répression qui aille jusqu'au bout avec des dizaines ou des centaines de milliers d'interpellations et dans un processus qui aujourd'hui ne fonctionne pas, parce qu'on interpelle beaucoup, on poursuit peu, on punit mal. Et on ne sait pas faire le tri entre des gens qui sont malades, au sens de l'addiction, et des gens qui sont plutôt dans la jouissance.
Oui. Alors, même si on veut mettre une amende de 200 euros sur les personnes qui posséderaient des stupéfiants aujourd'hui.
Oui, mais pour faire payer une amende de 200 euros à quelqu'un qui possède des stupéfiants, il faut, un, l'identifier, deux, avoir les moyens de faire payer l'amende, la faire payer immédiatement, des dispositifs qui existent dans d'autres pays, mais pas chez nous.
On est bien d'accord, mais là, il faut agir vite, comme a dit le ministre, agir fort, agir collectivement. Donc, il faut quoi ? Il faut regrouper, finalement, tous ceux qui font commerce de la drogue et regrouper également tous les services de police, comme on le fait, avec le Haut-Fast.
C'est une solution qui vise à régler une question où la politique, elle, n'est pas identifiée. Et donc, si vous voulez régler les politiques de lutte contre les stupéfiants, vous devez faire un choix. Un choix rationnel, un choix politique, un choix philosophique, un choix moral, celui que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas en même temps avoir toutes les politiques et demander aux policiers de faire voiture-balai. Et d'ailleurs, la situation précédente à l'OFAST était exactement la même sur d'autres dispositifs, notamment dans les douanes, qui avaient la plus grande difficulté à lutter contre les stups, parce que les stups salissent tout, obligent à des opérations très compliquées, à des relations difficiles avec des informateurs ou des indicateurs, créent des scandales réguliers. Et donc, il y a là une difficulté qui est que nous n'avons pas défini de politique claire sur ce qu'est la réalité de ce que doit être la lutte contre les stupéfiants. Comme d'habitude, on fait tout, mais on ne dit rien. Et on ne peut pas demander simplement à un organisme de résoudre ce problème.
Alain Bauer, c'est quand même peut-être déjà un premier pas, c'est pas que de la poudre aux yeux, pardonnez-moi l'expression.
Ah non, non, je ne dis pas ça, je dis simplement que les pauvres policiers, gendarmes et autres opérateurs qui sont dedans vont avoir le plus grand mal à définir une politique qui doit être en même temps sociale, médicale, préventive, dissuasive, éventuellement pénale. L'élément qui manque dans tout ça, c'est la colonne vertébrale du dispositif. Il va falloir accompagner tout ceci. Il y a un moteur, une voiture, un siège, un volant. Voilà. Il faudra aussi du carburant. Le carburant, c'est la politique. Quelle est la politique souhaitée en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, la consommation de stupéfiants? Et je le rappelle, c'est d'abord un problème médical.
En plus, 80% des règlements de compte aujourd'hui sont liés au trafic de ces stupéfiants.
C'est surtout que le nombre de règlements de compte augmente,
c'est ça,
que l'armement augmente et que surtout la guerre qui existe notamment à Marseille a amené une décentralisation massive des opérateurs criminels, des réseaux directs du producteur au consommateur avec des produits bio. C'est comme la crise dans les supermarchés. Il y a donc des réseaux de concurrence parallèles qui se sont créés avec des armements, des dispositifs de distribution, des règlements de compte pour contrôler le territoire qui amène des problématiques absolument considérables. Et surtout, il n'y a plus de contrôle et de mainmise du crime organisé, car le crime organisé, lui, la police d'État, a été particulièrement efficace pour l'éradiquer. Le problème, c'est les effets secondaires. Quand il n'y a plus de parrain, et il n'y en a plus depuis la mort de Jean-Jacques Colonna, il y a un problème de multiplication de petites vassalités locales et une grande difficulté pour l'État à y mettre de l'ordre.
Merci Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie et vous avez également publié le livre « La criminologie pour les nuls ». C'était bon à savoir. Merci à vous Alain Bauer.
Merci.
Autre grand dossier du jour, le grand retour du dossier sensible sur l'immigration en France et une prise de position du président Macron qui a surpris et divisé au sein même de la majorité. En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. La République En Marche, je cite, doit regarder le sujet de l'immigration en face et ne pas surtout ne pas devenir un parti bourgeois qui ignore l'opinion de classe populaire séduite par l'extrême droite. Ajoutez à cette déclaration une sortie présidentielle sur les demandes d'asile abusives, sans renier bien sûr le principe du droit d'asile. Cette prise de parole d'Emmanuel Macron a rapidement ravivé à l'Assemblée les conflits, les différences, Vincent Derosier, sur ce sujet ô combien délicat, Vincent.
Oui, les mots du président ont réveillé des tensions dans la majorité qui étaient apparues lors du débat sur la loi asile et immigration. Malaise chez beaucoup de parlementaires qui ont l'impression d'aborder ce sujet n'importe comment, sans chiffres ni études précises. Les députés de l'aile gauche, eux, ne veulent pas jouer les frondeurs, ils préfèrent débattre, et si possible, débattre directement avec le chef de l'État. La demande de rendez-vous est partie ce matin à l'Élysée, dit le député du Vaucluse, Jean-François Cesarini.
Le président, lors de son discours, nous a dit « Moi, je suis à votre disposition si vous voulez en parler. » Voilà, on prend au mot. Le message, c'est de dire oui, il faut parler d'immigration, mais n'en parlons pas comme nos adversaires.
Débattre sans tabou, d'accord, mais attention aux mots du président, préviennent les députés Martine Venner et Sonia Crimi. Elles demandent à Emmanuel Macron de ne pas faire de provocation sur ce sujet ultra sensible.
On n'est pas submergé par un flux migratoire quelconque. Ce n'est pas vrai. Ne nous laissons pas embarquer par ce type de discours.
Quand on touche à l'immigration comme ça, c'est comme si on dit aux gens, vous n'êtes pas chez vous. Ayons beaucoup de bienveillance quand on parle de ce sujet-là.
Et ces députés ne vont pas s'arrêter là. RTL a pu consulter une tribune adressée au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Tribune qui sortira jeudi et qui demande au gouvernement de ne pas restreindre l'aide médicale d'État.
Merci Vincent. Vincent Derosier, service politique d'RTL. L'opposition dénonce également une attitude électoraliste de la part d'Emmanuel Macron. Un débat relancé en tout cas ce matin après l'évacuation du campement de la Grande Synthe. Le football, 22h11, c'est avec vous. Hervé Veugue, ça ne s'arrange pas pour Lille en déplacement à Amsterdam en cette première journée de Ligue des Champions.
Oui, pas du tout, puisque les Lillois sont désormais menés 2-0 après 55 minutes, des buts de Promes et Alvarez pour les Néerlandais.
A tout de suite pour la suite du fil rouge justement sur RTL. 22h11, pas de miracle pour les salariés du site de l'usine Ford à Blanquefort qui voulaient faire reconnaître que la fermeture de leur usine n'était en aucun cas motivée par des impératifs économiques. La cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée aujourd'hui incompétente pour en juger. C'est donc le clap de fin pour les 872 salariés. Et de surcroît, Philippe de Maria, les premières lettres de licenciement sont arrivées dans les boîtes aux lettres des ouvriers du site, Philippe.
Oui, ça fait beaucoup et l'ambiance est donc lugubre cet après-midi dans les locaux du comité d'entreprise. La justice vient donc de botter en touche. Muriel travaille depuis toujours chez Ford.
Il n'y a personne qui est capable de rendre justice, quoi. Je trouve ça lamentable. Maintenant, on n'a plus personne avec nous. Il n'y a plus personne.
Philippe Poutou, leader historique des Ford Blanquefort, est habituellement très combatif, mais lui aussi accuse le coup.
Personne n'a vérifié l'existence d'un motif économique. Tout le monde sait que Ford fait des profits. Tout le monde sait que l'argent public a été accumulé dans les poches de Ford pendant des années, Ford peut partir comme ça. Donc voilà, on est scandalisé, écœuré, et c'est vrai qu'on est triste parce que c'est une bataille qui est même assez longue et qu'on sait que là, on va être licencié. On n'aura pas réussi à empêcher ce qu'on tenait surtout à empêcher, c'était nos licenciements.
Et effectivement, les premières lettres de licenciement arrivent en ce moment au domicile des salariés. Muriel cherche donc activement du travail.
Je cherche un peu tout, j'aimerais bien dans l'aéronautique pour contrôler la qualité, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse.
Réponse pour l'instant ?
Pas de réponse, rien du tout.
Et pour se remonter le moral, les Ford de Blanquefort organisent un grand concert samedi prochain à Mérignac avec comme slogan « Ford, même pas mort ».
Philippe Demarie en immersion pour RTL aujourd'hui à Blanquefort. La CGT s'est pourvue tout de même, ce soir en cassation, mais sans grand espoir de revenir en arrière sur ce dossier. Et puis inquiétude également chez Michelin, avec pas moins de 4 sites du géant du pneumatique placés sous surveillance et menacés de facto par un plan de restructuration. La parité égalité homme-femme avance à pas compter dans les entreprises françaises. Selon un dernier audit du gouvernement, seuls 3,5% des entreprises traitent aujourd'hui de la même manière les hommes et les femmes, et ce un an après la création du fameux index d'égalité. Jugé et condamné à 18 mois de prison ferme en février dernier après avoir ivre percuté la voiture d'un couple de retraités qui n'a pas survécu au choc. Le gendarme inculpé, qui n'était pas de service, précisons-le, le jour des faits, vient d'être libéré sous bracelet électronique après 7 mois de détention. La colère ce soir de Céline, la fille de Geneviève et Florian Thur.
Forcément choqué, une certaine incompréhension. Nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'admettre et ça ne fait qu'amplifier notre colère. Oui. C'est quand même quelqu'un qui risquait 10 ans de prison. Mais comment ça peut être un signal positif en matière de sécurité routière? Comment voulez-vous que ça puisse dissuader des personnes de conduire après avoir bu? Absolument pas. On sait qu'on peut tuer deux personnes et puis 7 mois après être dehors. Donc bien évidemment que ça ne dissuadera personne. Être en présence d'un membre des forces de l'ordre, d'un gendarme, on a encore plus de mal à comprendre le message qui est envoyé en termes d'exemplarité par la justice. Oui.
Céline, la fille des victimes du gendarme alcoolisé ce soir-là avec Serge Puyot, RTL Grenoble. Et puis on l'a appris il y a quelques instants, le Vatican a annoncé le renvoi en justice de 2 prêtres italiens pour des abus sexuels présumés qui seraient déroulés dans un séminaire se trouvant dans l'enceinte même du Saint-Siège. Dans un instant, retour au fil rouge de la soirée, la météo, puis votre magazine de l'écho et enfin le cinéma.